Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude sur le Saint-Esprit et déterminer, en nous basant sur les Écritures, s'il est une personne, un élément de la Trinité ou tout simplement la pensée, la force, la puissance agissante de Dieu. Le dictionnaire encyclopédique de la Bible, publié sous la direction du Centre informatique Abbaye de Maretsou, écrit: la plupart des textes présentent l'Esprit Saint certainement comme une force. Cela n'apparaît pas seulement dans l'accord des textes du Nouveau Testament avec ceux de l'Ancien Testament, mais aussi dans de nombreuses expressions qui parlent de l'Esprit comme d'une chose, ou mieux d'un milieu vivant, d'une source de vie, d'une puissance mystérieuse, mais pas directement d'une personne. Par exemple, répandre l'Esprit Saint, l'éteindre, baptisé dans ou avec l'Esprit Saint, marqué du sceau de l'Esprit Saint, oindre de l'Esprit Saint, être abreuvé de l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint, cela apparaît encore dans le parallélisme entre l'Esprit Saint et la force de Dieu. Quand on attribue donc à l'Esprit Saint une activité comme la parole, le désir ou l'inhabitation, on ne peut pas en conclure sans plus qu'on le considère réellement comme une personne. Pareille expression s'emploie aussi dans les personnifications ou en parlant de concepts abstraits. Par exemple, la chair désire, la loi dit, le péché habite. L'expression « blasphème contre l'esprit » désigne la non-reconnaissance de la puissance de Dieu à l'œuvre en des actions pourtant claires de son envoyé. À part Matthieu 28, verset 19, aucun texte dans les synoptiques ne présente clairement l'Esprit Saint comme une personne. Fin de citation. Ce dictionnaire cite Matthieu 28, 19 et reconnaît avec juste raison qu'il est question de baptiser dans ou avec l'Esprit Saint. Mais voyons une erreur de traduction qui apparaît malheureusement dans la plupart des versions. Jésus aurait dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans sa version, André Chouraki traduit ce passage comme suit. « Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. » Le Christ demande donc à ses disciples de baptiser, d'immerger non pas au nom, mais dans le nom. Ceci est traduit du grec « eis », signifiant « dans ou dedans ». La Bible explique qu'à l'époque des apôtres, on baptisait tout simplement et uniquement au nom de Jésus-Christ. La Bible de Jérusalem, publiée par les éditions Lucerre à Paris, commente ce verset comme suit. Il est possible que cette formule se ressente, dans sa précision, de l'usage liturgique établi plus tard dans la communauté primitive. On sait que les Actes parlent de baptiser au nom de Jésus. Fin de citation. Même si cette formule a été ajoutée plus tard, faut-il baptiser dans ces trois noms? N'est-ce pas le Père qui appelle? Jésus a affirmé « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». C'est aussi le Père qui a accordé la repentance. Lorsque l'apôtre Pierre eut raconté aux fidèles ce qui s'était passé à Joppé, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'est le Christ qui a rendu notre salut possible, en nous justifiant par son sang, en nous réconciliant avec Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains, au moment de son baptême, le chrétien reçoit cette puissance qui lui permettra de recevoir l'immortalité lors de la résurrection. L'apôtre Paul écrit: et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. M. Chouraki traduit ce passage comme suit. Or, si le souffle de celui qui a réveillé Yeshua d'entre les morts vous habite, celui qui a réveillé d'entre les morts le Messie Yeshua vivifiera aussi vos corps mortels par son souffle qui vous habite. » Voilà pourquoi Paul n'hésita pas à écrire « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Ce n'est pas parce qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose au nom de X, Y ou Z qu'X, Y ou Z est automatiquement une personne. Si on vous demande de faire quelque chose au nom de la loi ou au nom de l'amitié qui vous lie à quelqu'un, vous savez que la loi ou cette amitié n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est la puissance agissante de Dieu. Voyons ce que l'ange Gabriel annonça à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » André Chouraki traduit, « Le souffle sacré viendra sur toi, la puissance du Suprême t'ombrera. » Vous pensez bien que si le Saint-Esprit est une personne, alors c'est lui qui devait être le Père de Jésus et non pas le Très-Haut. Or, combien de fois Jésus ne désigne-t-il pas Dieu en l'appelant Père? L'apôtre Paul écrit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, le premier qui soit né de nouveau, il dit que tous les anges l'adorent. Seul Dieu peut être l'objet de notre adoration, seul un membre de la famille divine peut l'être. Mais, comme nous le verrons, cette famille n'est actuellement composée que de deux personnes et non de trois. Pour prouver la thèse selon laquelle le Saint-Esprit est une personne, on cite souvent le récit d'Ananias et de son épouse Saphira. Examinons ce passage. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Ce récit prouve-t-il que le Saint-Esprit est une personne ? Ananias et Saphira, son épouse, voulaient l'estime des chrétiens. Ils vendirent une propriété et prétendirent en donner la totalité du prix de vente pour le distribuer à chacun selon ses besoins. Mais eux, qui prétendaient tout donner, avaient décidé d'en garder une partie. Pierre considéra cet incident comme un mensonge envers l'Esprit-Saint, envers Dieu. C'était une tromperie, c'était de l'hypocrisie. André Chouraki traduit de la façon suivante, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au souffle sacré? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Elohim. Pourquoi donc vous êtes-vous concerté pour éprouver le souffle de Yahvé? » Dieu était présent parmi eux en pensée, par son Esprit Saint, comme Jésus l'avait promis en disant, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Christ était en pensée avec ses disciples. Il appuyait, il guidait les décisions prises par les apôtres pour cette distribution. C'est aussi ce qui s'est passé avec Paul lorsqu'il écrit, « au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, qui avait l'Esprit de Dieu en lui, qui était inspiré par la pensée de Dieu, prit ici une décision. Le mot « puissance » est ici traduit du grec « dynamis », que l'on retrouve dans la promesse faite par le Christ à ses disciples. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » C'est encore ce que l'apôtre Paul écrit. « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Dans ces deux versets, le mot « puissance » est toujours traduit de « dynamis ». Quelle est donc cette puissance qui nous ressuscitera? Paul répond à cette question, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit était présent parmi les apôtres qui, après la Pentecôte, étaient réunis à Jérusalem. Ananias et Saphira mentirent volontairement et avec préméditation directement à Dieu. Leur mort fut un avertissement pour toute l'Église. Le mot « Trinité » n'existe pas dans la Bible. Lorsque l'apôtre Jean décrit le commencement de toutes choses dans son évangile, il ne mentionne que deux êtres divins et non trois. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Si le Saint-Esprit était une personne, ne pensez-vous pas qu'il devrait être mentionné ici? Dans la nouvelle édition de la Bible, traduite par Louis II, version 1975 avec les commentaires de Scofield, nous lisons « Dans la révélation progressive du Nouveau Testament, se manifeste le seul vrai Dieu existant en trois personnes divines, appelées ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des trois personnes de la divinité possède ses caractéristiques propres et se distingue nettement des autres. Cependant, toutes trois sont égales quant à leur essence, leur puissance et leur gloire. Chacune porte le nom de Dieu. Chacune possède tous les attributs divins. Chacune accomplit les œuvres divines. Chacune est digne de recevoir les honneurs dus à Dieu. » Fin de citation. Lorsque peu avant son arrestation, Jésus s'adresse à son Père, il ne mentionne pas le Saint-Esprit. Il déclare « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je vais à toi, Père Saint. » Jésus poursuit en comparant le lien qui existe entre son Père et lui, et celui qui existe entre lui et ses disciples. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Si la divinité est composée de trois personnes, chacune serait digne de recevoir les honneurs dus à Dieu. Pourquoi alors, dans ce qui précède, le Christ ne mentionne-t-il pas cette troisième personne? Pourquoi la néglige-t-il alors qu'il est à quelques heures de sa mort? Ne serait-ce pas le moment, en parlant d'unité, d'y incorporer les trois personnes de la famille divine et de déclarer « moi en eux et toi ainsi que le Saint-Esprit en moi ». Mais le Christ n'en fait pas la moindre allusion parce qu'il sait que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais uniquement la pensée, le caractère, la force, la puissance agissante de Dieu.